J'aime pas les au revoir.
J'aime pas les au revoir.
Oh, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, oh, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images.
J'aime pas les au revoir.
Aventure.
Paysage.
Rue.
Place.
Bourlinguer.
Vagabondage.
Globe-trotteur.
Globe-trottage.
But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my...
Salut, c'est Momo pour J'aime pas les au revoir sur Radio Saint-Taf. Bienvenue à tous. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Quand on était ados, on était des durs à cuire. Pour séduire, pour se prouver qu'on était des hommes, pour exister un peu ou simplement pour briller. On se prenait pour des cow-boys, des indiens, des aventuriers ou des héros télé. Dans notre chambre, on était les rois du monde. Puis on a fait des études, rien de glorieux. Quelques conquêtes, quelques pètes, quelques fêtes, quelques manifs où l'on partait avec des ardeurs révolutionnaires et où l'on revenait avec des mal de tronche. Un jour, on nous a jetés dans la vie active. Ah, la vie active. Quel beau concept. Un job, des collègues, des horaires et un patron. Et surtout, un truc qui nous pendait au nez des responsabilités. Rien de très héroïque. Alors, avant de se ranger des bagnoles, on a décidé de mettre les bouts, de prendre la tangente. Enfin, de ne pas faire nos demi-baguettes et de vivre l'aventure. D'enfiler le costume de super-héros sans vraiment savoir si on allait pouvoir l'assumer. En guise de costume, une bagnole ou un sac à dos avec un billet. Peut-être un guide quand même pour pas se jeter et s'enfiler. Et surtout, une destination comme terrain de jeu. Face à nos rêves, on n'en menait pas large. On la ramenait pas à la veille du départ, mais on vibrait intérieurement. Ça y est, on va le faire, on va se casser. On y est, c'est le grand jour. Moi, je me suis cassé un jour de novembre, il y a 10 ans, en 4L avec un copain, direction le Maroc. Mais c'est pas de nous que va traiter cette émission. Enfin, un peu si. Donc voilà, durant les préparatifs de ce voyage, on a croisé les copains au lycée qui descendaient en Afrique noire, eux aussi en 4L, mais blanche, la 4L. C'est de leur voyage que je vais vous proposer, et c'est eux qui chuchotent dans le micro là.
Ah, c'est nous.
Mais parlons un peu du premier voyage, de la première fois où qu'on s'est cassé, ou qu'on s'est taillé loin, sans savoir qu'est-ce qui nous attendait là-bas. Mal dégauchi, pas encore dégourdi. Juste l'aplomb de notre candeur. On tremblait au passage de la douane, on frissonnait à l'embarquement. On l'avait belle à faire des grandes diatribes la veille au bar ou à la soirée de départ. Là, on touchait l'aventure et ma foi, ça me rappelle la première fille que j'ai prise dans mes bras. Donc, salut Denis, salut Vev.
Salut.
Ça va les gars?
Ouais.
Très bien. Ouais.
Bien. Ah, on s'est bien reconnus, parce que c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ah, ouais.
L'introduction était parfaite.
D'accord. Donc, on va parler d'un voyage qui date pas d'hier, hein, comme j'ai dit. Ça fait 10 ans, je crois, maintenant.
11 ans.
Exactement. 11 ans, malheur.
Il compte.
Et donc, vous pouvez me replacer ça un peu dans le contexte, pas géopolitique, hein, mais tu sais, où vous en étiez, vous, à l'époque, quel âge vous aviez, quoi?
Écoute, on avait 20 ans à l'époque. On avait 20 ans, on avait fait 2 ans de fac chacun. Moi, j'étais en école d'architecture, Virgile était en école de commerce à Paris. Et ben, un peu comme tout le monde à 20 ans, on se posait des questions et on se disait, ben, 2 ans d'études, c'est sympa, mais on a envie un peu de voir autre chose, quoi.
Ouais, ça collait pas trop.
C'est, ouais. On se posait pas mal de questions et on se disait qu'on avait besoin d'un petit voyage.
Ouais.
On avait besoin d'un petit voyage, sauf que ben, pour partir, on pouvait pas trop partir comme ça, quoi. On avait besoin d'un projet.
Et c'est vrai que, je me rappelle, hein, on s'était appelé à peu près à la même période, on avait à peu près les mêmes envies. Donc moi, je finissais, pareil, bon, j'étais sur 2 ans de... année de commerce, et puis bon, ça collait pas trop, en plus à Paris, bon, c'était pas la même, voilà. Ouais. Et je me rappelle, j'ai appelé Denis, et j'ai dit bon, ben...
Je me rappelle du soir où tu m'as appelé.
C'est ça, voilà, ça c'était... Au moins on sera d'accord sur ces souvenirs-là, parce qu'après ça sera pas la même. Mais c'était un peu, voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait? T'en es où? Et c'est-à-dire pas qu'on change complètement, on bouge, voyage complet, on vire tout, et...
Allez, on s'arrache, quoi.
C'est ça.
Grave, et du coup, vous êtes parti comment? Enfin, je l'ai dit, hein, on s'est croisé en bagnole, je crois. Hein.
Et oui, c'est ça, on est parti en voiture, ouais. On est parti en voiture, mais bon, c'était surtout le... Il y a eu presque un an avant le moment où on s'est appelé, le moment où on est parti, il y a eu quasiment un an.
Ouais,
un
parce
an
qu'on voulait, on voulait quand même s'organiser, quoi. On voulait pas partir à l'arrache, ouais. Parce que bon, on voulait que ce soit préparé, et que ce soit, il y avait aussi...
Disons qu'on était aventuriers, mais pas trop, donc il fallait que ce soit bien calé pour qu'on puisse partir.
Voilà, c'était et on voulait faire avec... On voulait quand même qu'il y ait un but. On voulait qu'il y ait un objectif, soit pas juste le voyage... juste pour partir, quoi. On voulait que, voilà, que qu'on arrive à quelque chose, quoi.
Donner un but à notre voyage, du coup, c'était donner un objectif un peu, pas que partir ou partir. Donc l'objectif, ça a été très vite, je pense. On s'est dit, on part en Afrique parce que l'Afrique, ça nous inspire. Non, mais c'est pourquoi l'Afrique, je sais pas trop, mais.
Ça allait de soi, en fait, sans même pas poser la question, c'était l'Afrique. Quoi.
Ça allait de soi, et du coup, pour nous, ça a collé un peu avec alors, le grand mot d'humanitaire, mais partir pour faire, pour apporter les choses. Donc après, bon.
Ouais, mettre la cape là, quoi, le super-héros. Quoi.
C'est
ouais,
ça, c'est alors, ça, ouais. Après coup, avec le recul, on se dit que bon, c'était pas vraiment humanitaire, mais bon.
Non, mais
c'est pour se donner une conscience.
C'est ça, exactement.
Voilà, mais bon, le principal, on peut se dire quand même que on l'a fait. On a quand même réussi à organiser parce que du coup, on s'est dit de suite, bon, on fait une asso, on monte une asso. C'est ce qu'on a fait dans les mois qu'on suivit. Après...
Monter une asso, du coup, donc monter un projet. Donc nous, on était quand même attirés donc, beaucoup par la vidéo, par le documentaire. Donc très vite, l'objectif second, donc le premier, ça a été apporter des choses. Donc on s'est très vite mis en relation en fait, avec une association de Saint-Afrique qui était au Viala.
Ah, Viala du Tarn, c'était les Amis de la Terre.
Les Amis de la Terre, donc c'était une Françoise, alors de nom, on l'a plus.
Voilà, c'est là qu'on s'en est 11 ans. Quoi. Ouais.
C'est ça. Et du coup, qui travaillait avec une école au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et donc très vite, l'idée, ça a été de travailler avec cette école là-bas pour voir ce qu'ils avaient besoin et ce qu'on pouvait nous leur apporter.
D'accord. Et l'asso, c'était Human Hymn, c'est ça?
Alors l'asso qu'on a monté, c'était Human Hymn. Voilà, donc on avait fait des petits logos, tout ça, une petite communication visuelle autour de ça. Et du coup, donc le deuxième objectif, ça a été très vite la vidéo. Donc faire un documentaire sur l'école donc à Ouagadougou. Donc en parallèle du projet humanitaire. Donc humanitaire, en gros, ça a été quoi? Ça a été collecté, donc...
D'abord, on s'est mis aussi en contact, parce qu'avant de collecter, on s'est mis en contact avec... Il y avait donc le Rotary Club, qui était spécial dédicace. Bon, non, c'est vrai que là, on a une personne qui vraiment nous a beaucoup aidé, surtout pour tout le côté logistique, quoi, qu'on ne maîtrisait pas. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà l'habitude, ils le faisaient souvent, c'était amener des conteneurs, les récupérer là-bas, il y avait des personnes, donc voilà. Après, du coup, c'était simple, on n'avait qu'à récolter du matériel, et ensuite l'acheminer grâce, donc un partenariat quoi, avec le Rotary, et le récupérer sur place pour le donner à l'école.
C'est ça, donc il y a eu toute une étape de collecte où, en effet, on organisait des kines, on organisait des soirées de soutien, des collectes le samedi matin à Saint-Afrique, où les gens amenaient leur cahier, leur mobylette et leur vélo. Et donc on est parti, en gros...
Vous avez tout mis dans la 4L, du coup?
Eh non, on a tout mis dans un bus.
Ah oui,
voilà, c'était un bus qui devait être acheminé directement là-bas. Le bus qu'on tenait était rempli de, à la fois donc de, ça pouvait être des tables, des cahiers, des livres, tout ce qui va être des affaires scolaires, plus ou moins.
C'est ça, des crayons, des cahiers.
Et des choses de plus pour le loisir
des
aussi.
Des vêtements aussi.
Mais du coup, le bus, il est parti comment?
Alors, le bus, il est parti en bus. Il est parti en bus jusqu'à Marseille. Puis bon, au bout d'un moment, il y avait de l'eau. Donc là, il a été bloqué un peu.
Et ouais.
Donc il a été amené en bateau, le bus, jusqu'au Togo.
Ouais.
Et donc entre temps nous on est parti, donc ça, on le racontera après, mais on est parti en voiture au Burkina Faso. Et donc le bus nous a rejoint du Togo, il est reparti en bus à Ouagadougou.
Ah ouais, d'accord.
Nous on l'a réceptionné à Ouagadougou pour l'amener à Boulmigou. Boulmugou, c'était le quartier donc.
Banlieue pauvre de Ouagadougou.
Quartier défavorisé de Ouagadougou, où donc était l'école en question.
Ouais, mais du coup, pourquoi vous avez pris une bagnole? Pourquoi vous n'êtes pas allé en avion direct?
Et alors, du coup, voilà, ça, c'est tout le, c'est tout voyage, ouais. le voyage. Parce que finalement, il y avait ce côté, donc on apporte des choses. Il y avait le deuxième côté, donc documentaire, on en parlera, donc ça, c'était sur place.
Un troisième que tu as oublié quand même, je fais juste une petite parenthèse, c'était le côté avec le lien avec les écoles. Ouais. Parce qu'on s'était, à l'époque, on avait. Et donc, travailler avec Marie-Jo de la mairie, ouais. Voilà, pour mettre en place un suivi au niveau des écoles, quoi. Donc avec un site qu'on pouvait actualiser au fur et à mesure, bon, chose qui était très difficile, pratique.
En fait, ça faisait partie du voyage. Donc le troisième point, c'était en effet le voyage. Et ce voyage, c'était partir en voiture, partir en 4L, parce que c'était un peu le trip, quoi.
Ben ouais.
Oui, c'était surtout ça.
Toi-même, Momo, tu sais la 4L.
Ouais, c'est le kiff, quoi.
C'est ça. Et du coup, c'était partir en voyage. Et ce voyage, on voulait aussi l'organiser. Donc en effet, on a fait un site internet. On s'est associé avec deux écoles à Sainte-Afrique.
Ouais.
Et donc l'idée, c'était de faire une sorte de roadbook donc avec les balbutiements de l'informatique. Donc on devait mettre à jour des photos chaque mois ou chaque semaine. Sauf qu'il fallait trouver des cybercafés, c'était un peu compliqué à l'époque.
C'est-à-dire qu'entre le sud du Maroc et le Sénégal, les cybercafés, bon, c'est pas tous les 2 km.
C'est ça. Tac. Bon, je vous propose d'écouter un petit morceau de Zik et puis après on parlera du voyage en lui-même, quoi.
Ça marche.
La lumière en plein, et dans l'ombre, en silence, si tu cherches un abri inaccessible, dis-toi qu'il n'est pas loin, et qu'on brille à ton étoile. Petite sœur de mes nuits, ça m'en manquait tout ça. Quand tu sauvais la face à bien d'autres que moi. Sache que je n'oublie rien, mais qu'on est face à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. À l'horizon, des soleils qui s'inclinent, comme on n'a pas le choix, il nous reste le cœur. Tu peux cracher, même rire, et tu le dois à ton étoile. À Marcos, à la joie, à la beauté des rêves. À la mélancolie, à l'espoir qui nous tient. Santé du feu et de la flamme à ton étoile. À ton étoile. À ton étoile. We'll be right back.
Ouais, c'était Noir Death sur Radio Santa. Vous êtes dans J'aime pas les au revoir avec Momo, Denis et Vève sur Radio Santa. Donc voilà, bon, on va parler du nerf de la guerre, hein, le pognon un peu. Donc vous êtes parti, comment, qui c'est que vous avez racketté un peu pour.
Bon, rapidement, c'est vrai qu'on avait besoin d'argent pour un petit peu avoir un financement aussi bien au niveau du matériel donc audiovisuel. Ouais. On avait pris caméra et tout ça, et aussi au niveau donc, du transport. On a fait défis jeunes, on a fait des kins, des choses à l'échelle locale, voilà, un petit peu d'argent, défis jeunes et tout ce qui tournait autour, des fondations, voilà. Et puis après, on a harcelé pas mal Total, beaucoup harcelé, on est même monté à Paris, je me rappelle.
On est monté à Paris, on a tapé à la porte de Total, à la Défense, on est monté.
Pas du tout, ils nous ont fait comprendre qu'on n'avait pas de place, mais au final,
en short et t-shirt,
voilà, ça a donné, puisqu'ils nous ont quand même donné 1000 euros. Contre, ben voilà, alors après on leur demandait, mais il faut faire de la pub ou pas? Non, prenez les 1000 euros, au revoir, merci.
Non, il y a eu ça, il y a un peu de matos, on avait fait des salons audiovisuels à Paris, et des boîtes qui nous ont prêté du matos.
De toute façon, on ne comptait pas non plus mettre un sticker Total sur la voiture, hein, mais on serait d'accord, mais il fallait prendre l'argent.
Là où il est, hein.
Voilà, c'est ça.
D'accord, bon, on va essayer de refaire un peu le voyage chronologiquement. Donc vous êtes parti en Espagne, vous avez fait des rencontres peut-être, manger des tapas.
On est parti de Toulouse, donc avec une 4L suréquipée, avec des coffres soudés, une installation Wi-Fi.
C'était une 4L qui avait fait le 4L Trophy, qui était quand même déjà équipée à la base. Ouais. Bon, on a rajouté 500 kilos dessus de matériel. Mais...
Ouais, on a mis d'or désir en musique, parce qu'on a mis quand même une installation sono qui était excellente. Et donc on avait quand même du gros son à 4L, je me rappelle.
En Espagne, une autoroute. Un petit homme derrière, non, c'était vraiment équipé la 4L. Quoi.
Départ de Toulouse à 90 km/h sur autoroute, on a traversé l'Espagne à 90 km/h. On se faisait doubler par les camions, tellement qu'on était chargés. Les bus qui nous doublaient, on avait super peur. Et donc ça, c'était le début du voyage qui n'était pas très intéressant finalement en Espagne. Ouais.
On a tracé, on s'est arrêté à Malaga, on a fait une pause à Malaga, juste une nuit, où là, effectivement, on a rencontré des Français qui nous ont accueillis.
On est parti en décembre, et du coup, on arrive à Malaga le soir de Noël. Le 24 décembre, on arrive sur la plage, on rencontre des gens, et on s'est retrouvés dans un hôtel, dans une famille, le soir de Noël, qu'on ne connaissait pas, à fêter Noël avec une famille.
Un truc quand même avec, pareil, hammam, spa, et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, ça commence bien.
Ah ouais, dans la famille, quoi.
Ouais, carrément, non, mais c'était super sympa, on s'est régalé, on a fait un bon repas, et puis c'était le truc un peu... Bon, on s'est dit qu'on savait que c'était le...
C'était la dernière.
Et tout ça avant de traverser, quoi, avant de traverser la mer et arriver au Maroc.
Donc ouais, je parlais de la douane marocaine dont je garde un souvenir mémorable et je voulais savoir un peu comment ça s'était passé pour vous.
La douane marocaine, je pense qu'on n'a pas trop de souvenirs. Moi, j'ai pas trop de souvenirs. Ça s'était passé.
Ouais, ça allait quoi. Ça va. Ils ont pas trop emmerdé.
Moi, je me rappelle par contre le 100 mètres qui a suivi la douane. On passe la frontière, donc on arrive au Maroc, des gens sur la route à pied, le Maroc quoi. Et on se fait arrêter au bout de 100 mètres. Donc par un policier. Et donc là, qui nous dit qu'on a, je sais pas quoi, un problème sur la plaque, et qui nous demande des sous, forcément. Et donc là, c'est la première embrouille avec des policiers. Il y en aura eu plein d'autres après.
Même pas embrouille, parce qu'en fait, il testait. Donc on a mis. C'est vrai que là, pour le coup, je pense que c'était la première, on a bien agi.
Je crois qu'on lui a dit pas de problème, on te paye, mais on va au commissariat. Et donc il a dit bon, c'est pas la peine. je vous laisse partir.
Donc on a demandé notre direction. C'est tout droit.
Et voilà, bienvenue au Maroc. Bon, cool. Et vous êtes descendu du coup par la côte, vous?
Alors, par la côte, on a commencé par Chefchaouen, donc par la montagne quand même. Donc, première nuit à Chefchaouen, rigolo, hein, le paradis des jeunes de 20 ans, on va dire.
Ouais, pas de souvenirs particuliers. Ouais, si on était un peu quand même dépaysés, quoi, parce que c'est vrai que là, on a eu un petit peu le contre-coup, je pense. Enfin, moi, je me rappelle, je te rappelle le premier soir, en plus, c'était Noël et tout.
Je me rappelle.
On était assez, on était tous les deux un peu. On a eu le contre-coup de la veille, du départ, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, boum.
Ouais, et puis mine de rien, pas rassuré, quoi. Deux mecs, mais quand même pas rassuré, quoi. T'arrives au Maroc, des gens partout, tout le temps, dans la rue, des gens qui vivent dehors, quoi. T'as pas l'habitude.
Cool. Et du coup, j'étais avec Nico et je crois qu'on s'est retrouvés à Marrakech quelques jours plus tard.
Ouais, c'est ça.
Place Jama El Fna, tous les quatre.
On s'est retrouvés sur la place d'ailleurs.
Ah je me rappelle,
carrément.
Excellent. Et après, on a eu quelques jours, même 3 semaines, je crois.
Ouais, je pense. Pas mal,
3 semaines, on a bourlingué, quoi. On a fait Marrakech, Tafraout.
Ouais, bah, de Marrakech, on est parti sur Essaouira, ouais, se balader, machin.
On a passé le nouvel ensemble à Essaouira.
Ouais. Ah oui, qu'on s'est, on s'est mis dans...
On s'est mis dans un fleuve asséché.
Ouais, grave.
Ouais, sur, on est resté bloqué, quoi. On est resté bloqué le lendemain, la mer était un peu...
Non, c'était ça, ouais, était un que peu le mec, il était là, on était du coup avec nos 2-4L, on avait monté notre petit camp, on s'était fait à bouffer, on avait réussi à trouver une petite bouteille, on avait de quoi faire, passer la nuit, faire la bringue. Et le matin, il y avait un petit vieux en haut de la dune qui nous regardait, qui nous dit « ça va ?» Et nous, on était là « ouais, ça va, ça va, ça va, oui, ça va, ça va. » Et il nous disait « c'est l'oued, c'est l'oued. » Ah, quoi, c'est l'oued, c'est l'oued. Eh bien, oui, là, les gars, vous êtes dans l'oued, quoi. Ah oui, c'est vrai, il va falloir qu'on sorte de là, parce que là, on est descendu, ça allait, mais il va falloir y aller dans l'autre sens avec les 4L chargés à mort, remonter la dune, c'était n'importe quoi.
Moi, j'ai comme souvenir de ça, j'ai l'image de... Alors, on était perdu dans la montagne, je sais plus où c'était, ça.
Non, mais c'est après, ça. C'est ouais, Tafraout, quand on a... Ouais,
Tafraout, on est perdu dans la montagne, on a un problème de voiture, alors, sur une des 2-4L. Et là, donc, il y a un paysan qui arrive de nulle part, on ne sait pas d'où il arrive, il nous parle en arabe, donc on ne comprend pas. Et là, il nous montre du doigt, je ne sais pas si vous vous rappelez, il nous montre du doigt quelque chose dans la montagne, à 10 km. Donc, il n'y a que lui qui le voit, forcément. Et il nous a montré le truc pendant un quart d'heure. Il était tout là en train de regarder et rien voir, en fait. Donc, il devait nous montrer un chamois ou j'en sais rien, mais...
Moi, non, j'ai une bonne anecdote sur ça. Je me rappelle, c'est exactement le moment où on était partis, donc on était tous les quatre, et on était à côté de Tafraout, dans les montagnes derrière. Et je me rappelle, Momo, qu'un soir, on a fait chauffer une pierre réfractaire, ça, une pierre qui chauffe. Et on a fait, non pas une omelette, mais on avait fait cuire des. Sur la pierre, chose là, sur le feu, je me rappelle plus ce qu'on avait fait à manger, mais à ce moment-là, mais c'était. Si, ouais, je me rappelle.
Ah, ça, je crois que tu l'as monté, toi.
Non, non, mais non. Ah, ça qui est bien, les souvenirs, c'est incroyable parce qu'on n'a pas du tout.
C'est ça, on n'a pas du tout le même souvenir.
Tout à l'heure, ouais, et c'est vrai que 11 ans après, on se rappelle chacun de choses différentes, quoi.
Bon, bah, c'est cool. Et ouais, Tafraout, après, balade dans la montagne, les rochers peints et tout, là, c'était vraiment cool.
Ah, les petites peurs avec les vipères et tout, je me rappelle aussi.
Ah oui, la nuit la nuit pleine lune et tout, là. Oh, yeah, on avait fait le poulet, on allait casser les arbres pour se faire la grillade, là.
Alors, mais celui-là, je ne me rappelle pas du tout.
Ah, tu te rappelles pas que tu avais acheté des babouches, là, on était partis en randonnée, les babouches, elles ont explosé au bout.
Je me rappelle de ça, je me rappelle.
Quand on était retourné voir le vendeur de babouches, tu lui dis « Ouais, mais c'est de la merde et tout, qu'est-ce qu'il nous a vendu ?» Non, mais parez-vous les
Je me rappelle même le bain qu'on avait pris, le hammam à Tafraout, on était tous au...
Ah oui, avec le massage.
Fait, avec il avait pris l'option massage, quoi. Il s'était fait complètement, c'était le massage, genre le massage, quoi.
Ouais, c'était la lutte, en fait.
Ouais, c'était de la lutte.
Bon, cool. Et du coup, après, on est redescendu, on allait à Guelmim. Et Port du Sahara, du coup, ensemble. Et puis, on s'est fait une petite soirée de départ et vous avez tracé vers le sud, le Sahara, et nous, on est remonté au bled.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Bah, nous, pour nous, l'aventure a commencé là, je crois. Enfin, la deuxième aventure.
Ouais, parce que c'était différent. Parce que là, c'était,
le Sahara occidental, c'est 2000 km, je pense, à peu près. Ouais. Et donc là, tu te fais 2000 km, d'un côté, dans le désert, de l'autre, t'as la mer, et t'as rien. Et donc là, c'est parti, quoi.
Ouais, un petit bled, quand même, toutes les 4 heures, où il y a moyen d'acheter de l'eau et quelques trucs, quoi. Mais c'est vrai que rien, c'était le
désert. Je me rappelle que ça a été long, quoi. Ça a été très, très long. Ouais, ça a duré une semaine ou...
Ouais, je crois que c'était 4 jours, 5 jours, juste pour le Sahara occidental, quoi.
D'accord. Et après, vous êtes, du coup, frontière mauritanienne.
Voilà, d'abord, on est obligé de s'arrêter, donc, à l'époque. Ça a changé, mais à Darla.
Darla, donc, c'est la frontière, en gros. Enfin, c'est 10 km avant la frontière avec la Mauritanie. Donc Darla, c'est vraiment le point névralgique du Sahara occidental. Donc où il y a l'ONU, il y a pas mal d'organisations paramilitaires ou militaires. Et parce que tu as les Sahraouis d'un côté dans le Sahara qui veulent l'ouverture sur la mer, et de l'autre côté tu as les Marocains qui veulent garder le Sahara occidental. Du coup c'est un peu tendu. Et nous on s'est retrouvés là-bas, donc on a eu des problèmes d'argent. Et donc on s'est retrouvés un week-end bloqué, on attendait des sous qui arrivaient le lundi, je crois. Et on s'est retrouvés 4 jours bloqués. Et donc là, la grosse histoire. Je pense
on a eu vraiment je crois que c'est quasiment la plus grosse.
Oui.
C'est le plus gros flip, on va dire, de tout notre séjour. Il y en a eu d'autres, mais celle-là, c'était le pire. En gros, viteuf, c'est vrai qu'on s'est retrouvé comme là-bas. En plus, il y a beaucoup de tout ce qui est passeur d'hommes, puisque c'est vraiment c'est une étape nécessaire pour après ils allaient donc ces Canaries.
Il y a des gens qui passent les passeurs d'hommes qui vont aux Canaries pour aller en Espagne. Il y a les passeurs de cigarettes entre le Mauritanie et le Maroc. les passeurs de cannabis entre le Maroc et la Mauritanie.
Les policiers qui sont plus ou moins, donc ils sont au courant de tout ça, et donc limite, ben, des fois, voilà, la corruption quand même, je pense, ouais, est assez élevée, enfin, c'est tout déjà à l'époque. Et on s'est retrouvés dans, exactement pile-poil au milieu de tout ça. Quoi.
Voilà, de blanc bec, là, voilà, c'est avec leurs belles illusions qui débarquent.
Et je me rappelle que moi, ça a été un gros flip, je ne sais pas si tu en rappelles, on avait même dormi, on s'était débrouillé pour aller rechercher les couteaux. Moi, j'avais dormi le couteau sous l'oreiller, parce qu'on flippait, on était chez des mecs, qui, donc il y avait un flic, un passeur d'hommes, et donc ça avait la soirée, bah, voilà,
il y avait de quoi ça discutait. Il y avait le fils qui était un Sahraoui extrémiste qui voulait nous égorger à tout moment.
Qui était calmé par le policier qui nous aimait bien. Enfin, c'était vraiment bizarre. On était un peu au milieu de tout ça. Et le lendemain, alors pour faire vite l'histoire, c'était que le lendemain, donc, on a fait remonter notre 4L au niveau des essieux pour qu'elle soit plus facile dans le désert, ce que nous avait conseillé. Et donc on a laissé la 4L quoi, 4-5 heures. Et donc on a croisé des Français après, le lendemain, qui avaient, eux, entendu une histoire comme quoi il y avait une 4L de Français dans lequel ils avaient mis du... Enfin, c'était vraiment très bizarre. Mais bon, on avait entendu ça, qu'ils avaient mis du cannabis dans les essieux. Parce que c'est comme ça qu'ils faisaient là-bas pour passer la frontière, souvent, en Mauritanie, pour faire passer le... Voilà. Et donc tout concordait pour que ce soit notre 4L. Enfin, c'est-à-dire, on était vraiment... Alors, à la fois, on avait peur aussi, donc on pensait que c'était nous, quoi. Et donc on a eu très peur.
Ouais. Et du coup, on est parti à la frontière qui était à 10 km. On s'est arrêté parce qu'on ne voulait pas la passer en étant persuadé qu'on avait du cannabis dans les essieux.
Et alors, il était là, ouais, non, il faut passer, mais non, si on passe, il nous fout en prison, qu'est-ce qu'on
donc,
va faire.
Donc, ce qu'on a fait quand même, c'est qu'on s'est quand même arrêté derrière des dunes, à l'abri des regards. On a démonté toute la voiture pendant une journée. On a démonté les essieux, on a tous les montés.
On a essayé parce qu'on n'a pas pu complètement, quoi.
C'est ça.
Les Français qui sont venus là.
Et du coup, on s'est arrêté à la frontière un kilomètre avant. On a arrêté deux Français. On leur a dit, bon voilà, ça c'est les numéros d'ambassade, le numéro de nos parents. Si on passe la frontière et qu'on se fait arrêter et qu'ils trouvent du cannabis dans les essieux, vous appelez directement l'ambassade. Parce que la plus grosse peur, c'était être enfermé en Mauritanie en prison.
Ouais, mais... parce que nous avait largement raconté ce qui se passait en Mauritanie en prison. Et c'est vrai que c'est assez... voilà.
Moyen, tac. Bon, ben, on peut s'écouter un petit morceau et puis on reviendra à tout ça après.
Donc j'aime pas les au revoir, c'est Momo avec Denis et Vev, voilà. Et bon, on va parler un peu donc du Sahara, de la Mauritanie, je pense. Donc là, je pense qu'ils ont réussi à passer la frontière.
C'est les ça, deux. On a réussi, c'était un peu compliqué. Bah, entre le Maroc et la Mauritanie, il y a 10 km où il n'y a pas de frontière, en fait. Il y a une frontière à 10 km et la prochaine, elle est...
Le No Man's Land.
Ouais. 10 km après. Donc c'est une zone qui était plus ou moins minée à une époque. Et nous, on s'est retrouvés bloqués, je crois. On a dormi là-bas ou pas?
On a dormi, ouais.
On a dormi dans ce No Man's Land, en fait, parce que la frontière était fermée. Du coup, pour planter la tente, on jetait des cailloux.
Ouais,
on était sur le chemin et on jetait des cailloux pour vérifier qu'il n'y ait pas des mines sous la tente.
Ouais, ça aurait été con en se tournant dans la nuit. Ah, Denis, t'es où? Merde.
C'est ça. Donc on dort là-bas et bon, finalement, tout se passe bien et on repart. Et on arrive en Mauritanie.
D'abord, on a traversé du désert quand même. On arrive à Nouadhibou,
Nord,
voilà, c'est le nord, et après donc on trouve un guide pour traverser le désert.
Et après donc voilà, c'était l'époque où il n'y avait pas encore de route, et du coup il y avait 3 jours de désert, de vrai désert quoi. On partait avec des guides, on était des convois de 5-6 voitures.
Ouais, super, tout le monde bon souvenir quoi.
C'est tempête de sable, on dormait dans le désert, avec le soleil couchant dans le désert, tout ce qui va avec.
Le pied quoi, le banc d'Arguin avec les animaux, on est passé à côté...
Ouais, vous étiez passé à marée basse, c'est ça?
Ouais, c'est ça, on devait un moment passer...
passer à marée basse, avec les pélicans, on passait à fleur de l'eau, quoi. Vraiment, on raflait l'eau, et avec les pélicans qui volaient en dessus.
Ouais, ça reste les souvenirs...
C'est les images les images de films, un peu, docu, que tu vois à la télé.
Ouais, c'était comme on peut s'imaginer, à traverser le désert, quoi.
Tranquille, le rêve.
Ouais.
Bon, mais ça, c'est cool. Et du coup, Nouakchott, et après, donc, vous arrivez à la capitale mauritanienne. Et après, vous, vous êtes descendu sur le Sénégal.
On n'est pas resté longtemps, alors c'est 2 jours, hein, c'est ça, la capitale.
Un ou 2 jours.
Nouakchott, ouais.
Voilà, c'était le bordel, hein, quand même. La capitale, c'est le...
Ouais, ben, Mauritanie, c'est République islamique, c'est tendu, quoi.
C'est super tendu, ouais, très répressif.
T'as pas du tout envie d'y rester, donc tu restes pas. Et dans ces cas-là, tu mets les voiles direct au Sénégal.
Direct, mais vous aviez chopé des visas et tout, vous aviez le droit de rentrer avec la bagnole, là, au Sénégal, ou...
Alors, les visas, j'ai plus trop souvenir, donc c'est toujours pareil, hein, t'as des systèmes de laissez-passer ou frontières, tu... Donc l'idée, c'est que tu rentres avec une voiture et qu'il faut ressortir avec une voiture.
Ouais, d'accord.
Voilà, pas, ça c'est le principe.
Le principe pour ne pas vendre de véhicules sur le territoire. Ouais, et non, je n'ai pas de souvenir, moi, de laisser passer.
Non, c'était évident. Il y avait juste le... Bah, nous, il y avait 2 possibilités, donc passer soit par Saint-Louis, c'est ça, donc hein, par côté mer, côté terre, donc en traversant le Sénégal avec les bateaux. On a choisi cette option. Mais je pense qu'on s'y est pris un peu trop tard, donc on arrivait trop tard là-bas. On a pris le dernier bateau et malheureusement donc nos papiers, vu qu'ils n'ont pas eu le temps d'être traités, ils sont restés de l'autre côté de la rive et donc on a dû attendre de l'autre côté, donc côté Sénégal, sans les papiers. Et donc durant cette attente, c'est vrai que là,
bah, du coup, c'était un peu chaud. On a traversé le fleuve sans les passeports et donc...
non, les cons.
Voilà, ce qu'il ne faut pas faire en fait.
Et donc forcément les douaniers qui nous demandent les passeports, moi les douaniers ils connaissent très bien la combine. Hein.
Mais...
Et donc on leur dit, bon, on les a pas, donc on est clandestin.
Mais oui, évidemment. Bon les gars, vous allez cracher maintenant.
Voilà.
Et donc en gros, voilà, t'as des sous, tu donnes et tu récupères ton visa.
Voilà, et comme on a fait, comme il y a des mecs qui arrivent et qui veulent te dire, ouais, c'est bon, je m'en occupe, je vais gérer, que t'es pris un peu dans la pression, tu laisses faire le mec, au final il revient. Et donc en fait, au final, on s'est fait racketter.
Bah,
après, assez violemment, je m'en rappelle à la fin.
Toi, tu étais resté dans la voiture tout seul, t'étais un peu énervé, donc j'ai dit, bon, je vais gérer les papiers. Donc je suis parti, moi, gérer avec les policiers. Et je suis revenu, il y avait 50 personnes autour de la voiture et je me rappelle qu'il y avait un mec avec un couteau.
Ouais, qui nous a... Là, c'était vraiment le plus gros flip, mais vraiment, là, c'est couteau et on a du tout lâché le pognon qu'on avait, quoi. Donc, résultat, on est parti, on a récupéré nos papiers, on est parti, mais on n'avait pas un PC-TOS, quoi, dans la poche. Et on s'est arrêté.
Il n'y a pas de distributeur.
Non, il n'y a pas de distributeur. Non, on n'en a pas. Et du coup, on a eu vachement de chance parce que ce soir-là, ben, on s'est arrêté. Bon, une cabine téléphonique pour appeler papa-maman, hein, forcément. Allô, maman, bon, il faut que tu nous envoies. Donc, transfert, union, comment ça s'appelle, transfert
Western Union. Voilà. Voilà.
Et heureusement, on a de la chance, il y a des gens qui vivaient, c'est le Sénégal après, donc c'est la cabine téléphonique, donc directement sur une porte, et tu rentres dans une maison, et là, ils nous ont vus, ils nous ont invités chez eux, voilà, s'ils habitaient juste, ils géraient les cabines téléphoniques, quoi.
D'accord. Ouais.
Et donc voilà, on a commencé comme ça, le Sénégal, quoi, puis ça a été assez vite, quoi.
Et le Sénégal, après, on n'a pas resté longtemps, on a dû rester 3-4 jours.
Ouais.
Le temps d'arriver à Kaï, donc Kaï c'est une
ville. Ouais, mais là c'est fini quoi, le Sénégal c'est fini, le sable, le désert. Là,
ah ouais, non, c'est fini là, au Sénégal, ouais.
Là c'est la Mauritanie, on passe le Sahara occidental, la Mauritanie, on arrive au Sénégal.
C'est tropical quoi, limite.
C'est le fleuve Sénégal, donc c'est vraiment la savane, la végétation luxuriante.
Voilà, premier soir on dort à côté du Sénégal, donc je disais tout à l'heure à Denis, voilà les moustiques. La chose qu'il ne faut pas faire aussi, non, parce que.
Ouais, vous avez fait.
Voilà, dormir à 5 mètres du fleuve Sénégal quand on est tout bab, machin, c'est pas bon.
Non, là, ça ne marche pas.
Même avec des moustiquaires, ça ne marche pas.
C'est ça.
Et vous êtes fait bouffer, quoi.
On s'est fait bouffer. Du coup, on a tracé, parce que je pense que c'était un mauvais moment. Moi, je n'ai pas de souvenir.
Ouais, moi, je me rappelle que c'était un mauvais. On était fatigués, avec en plus le racket, le pognon, la pression et tout ça. C'est vrai qu'on était un peu chaud à ce moment-là.
Du coup, vous gonfliez, quoi.
Voilà. C'est caca, et je crois qu'on a repris 3-4 jours avant de partir ça, pour la piste.
On traverse le Sénégal, et au bout du Sénégal, donc il y a Kaï. Kaï, c'est une ville quasi frontalière avec le Mali.
D'accord.
Et donc la Kaï, donc c'est pareil. Donc quand tu arrives à Kaï, tu peux plus traverser. Il faut traverser en convoi en fait, parce que tu as 3 jours de savane.
De pistes,
et c'est des pistes pour 4x4. Et donc tu peux pas partir tout seul, parce que si tu pars tout seul et que tu as une galère sur la route, t'es mort quoi.
Ouais.
Et donc on est resté 3-4 jours à attendre des convois, enfin attendre des Français.
Voilà, on a rencontré des Français, des gestions qui faisaient un spectacle et tout ça, on est parti avec eux quoi.
Qui étaient surtout super calés en mécanique.
Voilà, c'est ça. Ouais, il faut s'entourer de la bonne
personne. Ouais, parce qu'un gestion au milieu du désert, c'est cool.
On était calés, mais pas à ce point-là. Ouais. Et ils avaient des 505, quoi, je me rappelle, hein, des bonnes voitures quoi, qui tenaient bien.
Ouais, ils avaient des 505 et ils avaient surtout des grosses tentes militaires où le bivouac, c'était des vrais bivouacs. Quoi.
Ouais, c'était des vrais, eux, ils étaient vraiment équipés. Quoi. Ouais, côté, on était amateurs. Quoi.
Nous, on avait la tente quechua, eux, ils avaient la tente militaire pour 50 personnes. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc là, c'est un des plus beaux moments qu'on a fait, je pense.
Ouais, la piste, c'est même. Ouais, moi, j'en ai encore des meilleurs souvenirs, presque le désert. Quoi. Là, c'était vraiment.
Là, c'est 3 jours de savane.
Hippopotames, singes, les cascades au milieu. Là, c'est vraiment.
C'est ça, premier soir, on fait 10 heures de route, on a un peu plus, il fait chaud. On a les bouteilles d'eau dans les chaussettes mouillées là, pour tenir un petit peu au frais. Et là, on n'en peut plus, on arrive à 3-4 heures l'après-midi. Et donc, on se dit, il faut se baigner, quoi. Il faut qu'on se mette à l'eau, il fait trop chaud, il fait 45 degrés. Et sauf que t'arrives, t'as le Sénégal qui est tout marron, qui fait 100 mètres de long, t'as les hippopotames et les alligators au milieu, et tu te dis, je vais quand même...
Bon, vous avez pas vu, je me rappelle, mais il y a l'image, il y a tout ce qui reste.
Donc en gros, tu sautes dans le Sénégal et tu ressors direct, tu restes une demi-seconde.
Ah, c'est boueux, tu t'enfonces jusqu'au mollet, tu ressors, c'est...
Et donc, et puis c'est de la soupe, quoi.
Ouais, c'est pas ce qu'on imagine de la baignade, tu vois, j'ai envie quoi, tu vois, c'est...
Et donc premier soir, on fait le bivouac, donc le gros bivouac avec la tente militaire, tout ça. Et donc là, un cri énorme de monstre. En fait, c'était... je me rappelle, on est parti avec la torche, on était quatre à la queue leu-leu, à un mètre de la voiture. Et en fait, il y avait un hippopotame qui avait gueulé à je sais pas, 10 mètres.
Ouais, c'est ça. On avait vu les marques le lendemain, parce qu'on l'a pas vu sur le coup. Bah, on ne voulait pas y aller, je veux dire. On ne voulait pas le voir, on va dire.
Et un hippopotame qui te gueule dessus à 10 mètres, c'est hyper...
D'ailleurs, ils le disent là-bas. Les hippopotames, c'est le danger, c'est le plus gros danger, quoi. L'hippopotame, faut faire super gaffe.
Ouais, c'est un peu...
Voilà. Et le lendemain, en se levant, je me rappelle des singes, quoi. Mais quoi, 10-15 singes dans l'arbre à côté, quoi. C'était génial. Magique.
Cool. Bon, on s'écoute un petit morceau de musique et puis on parlera du Burkina, je crois, après, c'est ça?
Eh bien, de la fin.
Destination.
Hein. Ouais.
Je vois, assemblage et dio, y'a longtemps c'est plus revu. Tao.
C'est ambiancé sur Radio Centrafrique. Donc là, on est au Mali, on va bientôt arriver au Burkina, je crois, avec Denis et Vev, et puis voilà, ils vont nous raconter tout ça. Ils en ont bientôt fini de la piste, ils vont retrouver la civilisation et souffler un grand coup, je crois.
On se dirige vers Bamako, là, vers la ville, vers la civilisation. Alors Bamako, moi, ce que je racontais à Virgile, là, on arrive, et moi j'ai des souvenirs, la 4L qui tombe en panne au milieu de la grosse rue de Bamako, donc des voitures partout, des gens partout. Là. Et là, Virgile qui sort, on répare le câble accélérateur au fil de fer, au milieu de la route, pendant qu'il y a 10 mecs qui nous poussent en même temps. Enfin bon, grosse arrivée, et on reste 3-4 jours à Bamako. Et là, fin d'été un peu.
Ouais, tranquille, ouais, on se repose de la piste.
Bah, boire des bières,
je
me rappelle qu'on a bu quelques bières là, pendant 3-4 jours.
Ouais. Ouais, il fait tellement chaud que. Rien peut te déshydrater, quoi.
Ouais, faire gaffe, quoi. Ouais.
C'est dangereux. Disons que tu peux rien faire, donc t'es obligé de rester assis au bar, donc bon.
Bon, ben oui. Autant s'occuper.
Ouais, et encore, Bamako, c'est assez frais, parce que c'est vrai qu'on arrive à Ouagadougou, c'est encore pire, quoi.
Du coup, là, vous avez bougé Ouaga. Voilà, ça, c'était la destination, un peu.
Voilà, la destination finale, c'est Ouagadougou, puisque c'est là qu'on doit réceptionner.
C'est Ouaga, donc on traverse la frontière et on arrive à Bobo, Bobo Dioulasso.
Ouais, Bobo Dioulasso.
La ville des. C'est comment on dit, les musiciens, ouais. Des griots, non, c'est pas les griots.
Si, ouais, c'est ça.
C'est ça, hein. Ouais. Et donc, c'est la ville des griots, donc on y reste un ou deux jours.
Ouais.
Et on arrive à Ouaga, donc à la destination finale. On dort chez qui le premier soir?
Bah après, on arrive direct, je sais pas si c'est direct, non, l'école du courage, c'est après qu'on les rencontre. Hein.
Parce que du coup, vous alliez à Ouaga pour faire un reportage, c'est ça?
Voilà,
Du coup, ouais, nous on arrive à Ouaga, donc en gros, le voyage est fini et on commence notre but.
Deuxième période, parce qu'on va rester quand même 2 mois et demi à Ouagadougou, quoi.
Ouais.
C'est et ça, là, notre objectif, c'est de vivre quand même comme. C'est-à-dire de vivre à l'africaine. Quoi. Ouais. Et ça, c'est quand même, on va se rendre compte, je pense, en 2 mois et demi, que c'est non pas pas possible, mais très dur.
Ah, c'était dur. Bah, c'était en avril, donc c'était la période chaude. Ouais. Donc en gros, il fait 35-40 degrés, 80% d'humidité. Donc dès que tu marches, tu fais 10 mètres, t'es en nage.
Ouais. Puis on dort en même le sol, dans des sortes de. Voilà, chez l'habitant, quoi. C'est vrai que là, c'est fou.
Mais vous aviez des contacts?
Mais en gros, oui, avait François, parce que c'est lui qu'on voit au début. Hein.
En gros, le professeur on arrive donc dans l'école. Donc l'école qui est en contact avec l'association de Centrafrique.
Ouais.
Et donc là, donc, on retrouve en effet cette école-là. Donc,
avec François, l'instituteur.
Donc cette école, en fait, c'est une école qui accueille des orphelins dans une banlieue pauvre de Ouaga. Et du coup, donc, le directeur de cette école, c'est un enseignant, un instituteur qui donne des cours dans une école privée à côté.
D'accord.
Et donc,
on est chez lui.
On est chez lui, donc notre but c'est de faire un documentaire donc sur son école et son travail.
D'accord.
Voilà. Et donc il y a ça, et donc il y a aussi la réception du matos là, qui arrive en bus du Togo. Donc il arrive en même temps que nous.
Mais du coup, après, quoi, le bus, vous l'avez vendu le matos, c'était pour l'école?
Voilà, le bus, il a une destination, je crois, spéciale. Il est pour quelqu'un, mais je crois pas que ce soit...
Le bus, il est pas nous. Le bus, c'est le Rotary qui nous l'amène, il récupère.
C'est ce qui est dedans, nous, qui est à nous, qui est distribué à l'école. Donc, François s'en occupe, mais par contre, qui n'est pas distribué d'un coup comme ça. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas à vraiment une distribution, quoi. Il le garde dans un endroit et c'est au fur et à mesure des besoins qu'il donne aux élèves, quoi.
Ouais. Et du coup, là-bas, vous avez fait des rencontres un peu et vous avez ramené quelque chose de ce voyage, à part des souvenirs. Et
là-bas, images. Du coup, nous, on fait notre documentaire du coup, sur l'école.
Ouais.
Et donc, on rencontre des gens et au fur et à mesure, très vite, en fait, on va habiter dans une famille, donc dans un carré. Ouais, c'est un carré, donc carré, t'as le grand-père, la grand-mère, les parents, les fils qui habitent tous, chacun, une petite case dans le carré.
Ouais.
Et nous, donc, on a notre appartement, enfin, on a notre pièce de 10 mètres carrés où on dort. On dort. Et donc, très vite, on rencontre des jeunes qui ont notre âge, avec qui on commence à faire un peu la fête.
À faire du djembé, à faire, à faire connaissance, quoi. Ça s'appelle l'école du courage.
L'école du courage, donc compagnie de théâtre, de musique.
Voilà.
Il y a un très gros musicien avec eux, qui s'appelle...
Alain Emma.
Il y a Alain,
Yacouba. Donc, c'est comme ça qu'on fait ces contacts-là. Donc c'est Alain Emma qui gère un petit peu cette troupe, qui lui est beaucoup plus âgé, qui fait du théâtre, qui est assez connu d'ailleurs au Burkina Faso, qui gère cette troupe, qui a à la fois une troupe de théâtre et de musiciens.
D'accord.
Et donc voilà, on reste avec eux en fait pendant un mois et demi, quoi. Donc à vivre avec eux, et c'est des contacts qu'on garde par la suite, puisque après en rentrant, on les fera venir dans le cadre
De l'Afrique, festival,
de l'Afrique à Sainte-Afrique. On l'organisera un an après.
Un an après, qui est un peu l'aboutissement du voyage.
Voilà, finalement. C'est un peu le point final, on va dire. Quoi.
Et c'est vrai que, qu'avec eux, du coup, bon, nous, on fait notre docu. On fait notre docu, on est avec eux. Pendant qu'on est là-bas, il y a le FESPACO. Le FESPACO, c'est le festival de cinéma. Donc, c'est le plus gros festival d'Afrique de cinéma. Et donc, on se retrouve un peu propulsé au milieu du FESPACO, en train de voir les projections, de faire des interviews aussi à la radio, à RFI. Voir des spectacles avec Alain, justement, qui nous amène dans les spectacles de théâtre. Cool. Donc, un bon moment, ça. FESPACO. Ouais.
Je me rappelle même des jours où on craque un peu et on se dit qu'on va se faire... je me rappelle deux fois, on est allé à une piscine d'un hôtel, parce qu'il nous faut une piscine, parce qu'on craque. Vraiment, là, c'est vraiment la surprise qu'on retourne. Voilà. Et puis, c'est vrai que deux, trois fois, on se remet un petit peu... on voit un petit peu les relations avec, entre guillemets, quoi, les Blancs
de Ouagadougou. Mais oui.
Et c'est vrai que moi, ce qui m'a choqué, c'est c'est une énorme différence, quoi, de
les expats, tout ça.
Tous les gens sont hyper sympas, hein, sans aucun problème. Mais après, toi, t'as les moyens. Eux, ils ont pas du tout. Et c'est vrai que là, tu te rends compte que d'un coup, les mecs, ils mangent pas tous les jours, et que t'es leur pote, tu passes la journée avec eux, et que dans les 10 mecs, tes 10 copains, t'en as 5 ou 6 qui mangent, quoi. Et les autres, ils disent rien, sauf qu'en fait, ils mangent pas, quoi. Donc très vite, toi, t'as les moyens, tu t'en amènes un ou deux manger par jour, quoi. Et sauf que forcément, tu crées des rivalités et qu'au bout d'un moment, les gens...
C'est très dur. Tu restes quand même... même si tu passes 2 mois, même si, à mon avis, tu restes plus longtemps, tu restes quand même, entre guillemets, tout bab, quoi. C'est-à-dire, t'as un
t'as
petit
les
peu
moyens,
le...
quoi, voilà,
t'as
arrive,
les moyens,
quoi.
T'as, je veux dire, t'as un billet d'argent qui est gravé sur le front, que tu le veuilles ou non, quoi.
Et alors, ce qui était hyper bizarre, c'est que nous, pour le coup, on n'avait pas du tout les moyens. Donc, on s'est retrouvés sans du tout de sous à la fin du voyage. Et jusqu'au point où on a, en fait, demandé des sous à Alain. À la fin du voyage, je sais pas si tu te rappelles.
Oui, parce qu'on était complètement...
On était complètement raide, donc là, ils comprenaient pas du tout.
Là, c'était un peu le monde à l'inverse. En s'agissant, c'est pas possible. Ils comprenaient pas trop, quoi. Mais bon, à la fin, quand même, Denis, il avait maigri quand même, je pense que t'avais perdu 10, peut-être un peu plus. J'ai fait des touristas, je pense que j'étais resté 6-7 jours, manger, mais vraiment comme eux, donc
non, du coup... pas 6-7 jours, mais je me rappelle de 2 jours où j'étais vert.
Ouais, moi je me rappelle,
je te disais de m'amener à l'hôpital, toi tu me disais non, l'hôpital.
Ça coûte trop cher.
C'est risqué. Si tu vas à l'hôpital, c'est plus risqué que de ne pas y aller.
Ils vont te couper un bras.
Mais c'est vrai que du coup, c'était physique, quoi. Très, très physique dans la période chaude, à Ouagadougou.
Et à côté de ça, on tourne, quoi. On tourne avec une caméra, donc une petite caméra et avec une perche. Donc tous les jours, on est sur le front, il fait 45 degrés, on part dans les marchés, on part et on tourne. Donc on tourne, c'est notre premier vécu.
Et vous en avez fait quelque chose du coup de...
Alors ça a été un peu le désastre du...
Parce qu'on avait fait 25 heures de rush, c'est-à-dire on a filmé 25 heures. Qu'on faisait garder là-bas par une société, on avait réussi qu'ils nous gardaient au frais les rushs, parce qu'ils ne peuvent pas tenir sinon les mini-DV, ne peuvent pas tenir la chaleur là-bas ambiante. Mais 25 heures après, donc ça fait un montage, on a fait un docu de 50 minutes. Mais
le problème, c'est qu'on est rentré. C'est dur. On est rentré, et donc au moment de faire le montage, on s'aperçoit que la moitié des bandes sont cramées.
Déjà, il y avait une grosse perte.
Avec le soleil, donc là on se dit, on fait plus une heure, on va faire un 15 minutes. Et finalement, on a fait le montage, je crois qu'on l'a diffusé une fois.
Ouais, on l'a diffusé une fois parce que bon, il n'y a pas vraiment de qualité, on n'était pas professionnel, quoi, on était amateur, mais c'était pas mal, je me rappelle le contenu. Ce que je me rappelle surtout, moi, c'est qu'en regardant le montage, même 3-4 mois après, en fait, j'ai regardé presque avec un regard nouveau, je me rappelle l'école, parce qu'on était passé longtemps, à l'école, avec des toits de tôle, avec des mythes qui mangeaient tout le bois, et les enfants qui avaient vraiment, parce que c'était vraiment assez.
Et oui, quand t'es dedans, tu te rends pas compte, quoi, en fait.
Ouais. Et c'est qu'après, en regardant avec, un petit peu à la maison, en regardant le montage avec un air extérieur, de se dire waouh.
Parce qu'après, on n'a pas trop le temps d'en parler aujourd'hui, mais le documentaire, on a fait, donc on a suivi. On a suivi un petit enfant de l'école, donc qui s'appelait Mamoudou.
Voilà, qui était orphelin.
Et donc c'était un peu
notre
héros du film. Ouais, et donc il n'était pas orphelin parce que donc on est parti chez lui donc pour voir comment il faisait ses devoirs, pour le filmer dans son cadre familial.
Il y avait que sa maman.
Sa maman qui cassait donc comme travail, qui part. Donc on est parti avec sa maman, on l'a suivi une journée. Et donc elle partait dans un terrain vague en fait où il y avait du sable et des cailloux et elle prenait les cailloux. Et un casser des cailloux avec d'autres cailloux.
Pour en faire une sorte de gravier. Mais ça, c'était 10 heures pendant la journée, à 50 degrés. Et nous, on n'a pu la suivre que 3 heures. Et nous, on filmait. Alors déjà, c'était impossible pour nous parce que c'était vraiment physique. Sauf qu'elle avait cassé des cailloux en plus. Quoi.
Mais là, tu vois des choses que... C'est vrai que le docu nous a permis ça. Quoi. Nous a permis d'aller chercher un peu des endroits où on n'aurait pas été. Quoi, si on n'avait pas le faire.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, bah, on va terminer vite fait par l'Africa Saint-Afrique un peu. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais vite fait, parler un peu de ce que vous avez ramené du voyage, quoi, et ce que vous en avez fait après, quoi. Si vous voulez bien.
Bah, du coup, donc on rentre, après, on garde contact avec la compagnie du Théâtre Éclair. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, mais ça serait bien de les faire venir, ce serait un peu un juste retour des choses. Ils nous accueillent, on les accueille. Et donc, il y a une dizaine d'années auparavant, il y avait eu déjà un festival, l'Afrique à Saint-Afrique.
Ouais, il y a 20 ans, du coup.
Il y a 20 ans maintenant. Et du coup, bah, l'idée, c'est de dire, bah, écoutez, on refait le second tour, quoi.
Ouais. Petit festoche, comme ça finance la venue des artistes. Et
là, ce qui était bien, c'est que tout le monde s'est un peu regroupé, quoi. Toutes les assos de Saint-Af, tout le monde était super partant, quoi. Ça a fait une espèce de grosse dynamique, quoi, autour de ça, hein, c'est vrai.
Ouais, finalement, il y a eu plein de monde. Ça a vraiment bien marché. Bon, finalement, on l'a jamais renouvelé parce que c'était bien comme ça, finalement. C'était bien une fois,
je me rappelle, moi j'ai des souvenirs. Bon, je sais pas, peut-être que j'étais dedans, mais je pense que tout le monde, il me semble que tout le monde avait dit que c'était génial.
Je pense que tout le monde dit. Et ça en souvient encore aujourd'hui, je pense aussi, quoi.
Ah ouais, c'était vraiment...
Bah finalement, c'était un gros truc, hein.
Ouais, c'était un très gros truc.
Et puis on avait 22 ans, on était chaud.
Complètement.
Bah ouais, moi j'étais venu faire à manger aussi.
Évidemment, on dit ça, mais c'était sans le... Voilà, il y avait toutes les associations. Je me rappelle, il y avait plein d'associations qui ont participé. Nous, on n'était pas allés...
Non, bah oui, mais...
Voilà, on avait ramené juste l'idée, après, c'est tout la dynamique des tissus associatifs de Saint-Afrique.
C'est ça, donc ça a été un peu le dernier projet de l'association qu'on avait créé, Humanimne.
Ouais.
Et qui finalement, cette association, on l'a redonnée. Je sais pas, je te rappelle, à des petits jeunes.
Tout à fait, qui sont partis aussi au Maroc, dans un cadre, ou peut-être
Et les petits jeunes ont repris l'assaut, et donc ils sont partis faire leur voyage à eux.
Et l'assaut continue à voyager aujourd'hui, peut-être.
Sûrement.
Et alors l'assaut, je sais pas si elle existe toujours ou pas. Grande question.
Eh bien, si vous entendez sur les antennes cette émission et que vous êtes propriétaire de l'assaut Humanimne, vous pouvez nous contacter.
On aimerait bien la récupérer.
Ramenez-la au local de la radio.
Bon, Dac, je crois qu'il va être temps de faire nos au revoir. Peut-être encore, on peut s'écouter un petit morceau. Et puis voilà, merci Denis, merci Virgile d'être venu, c'était cool de se remémorer tout ça.
D'en reparler,
c'est clair.
On en reparle dans 10 ans.
Bah ça marche. Et puis vous aimez les au revoir vous les gars?
Bah non.
Pas trop.
Bon ça d'accord, c'est ration. Bon allez, bisous tout le monde, à bientôt pour une autre émission. Ciao.
Na mo ko fie nero sila don kilile le ile bola aha ile ne le muluku moso ni na mo ko fie soro fale mo sonyo mana osikote no ne kona de ile le le fe
ter mi amore me di perfie e nele Sim, tempo não também vivesse me de confiança, não era mais risonho. Olhar de nós criança, da dor na brilha de inocência. E na noite se esgritanhada, temporal talvez da mainã. Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansado.
de ser luta e resistência para sobreviver nesta tormenta.
Je t'aime, mi amor, et bien, bien.